passe la parole à Stéphanie Orlik et à Anne Cognon pour une présentation qui va durer une heure à deux voix. Voilà, on vous laisse la parole. Je vous remercie d'avance.
Merci beaucoup. Préambule, je parle vite, je ne finis pas mes phrases. Donc, mon courage.
Quand le micro est proche de me la sucer.
Au moins, ça peut aller vite. Donc, on s'est dit avec Anne que, étant donné la nature des personnes qui sont ici, la teneur des discussions, il fallait qu'on se resitue. Il y a quelque chose de très subjectif dans ce qu'on va présenter, puisque nous ne sommes pas des universitaires, donc on vient du numérique. Donc je vais commencer d'où je viens. Donc moi, je vais faire en thé chronologique. Je suis ici très heureuse depuis 3 ans à la Cité des sciences et de l'industrie, et univers sciences tout court, pour m'occuper du département d'innovation, conception, production, multimédia. Et oui, toujours le terme multimédia, ICPM. Donc, ce département travaille avec la direction des expositions et le musée Audra pour concevoir et produire tous les dispositifs numériques des expositions. Donc là, on est vraiment dans l'in situ. Il y a 3 corps de métiers, tel que c'est le cas encore aujourd'hui. Donc, 2 services de conception, un audiovisuel, un autre multimédia. Et service de conception aussi, parce que je regarde Didier qui me regarde, mais oui, en fait, un service d'ingénierie et de coordination technique, mais on connaît tous les créatifs technologistes, donc après tout, c'est 3 services dans le service de conception. Donc j'espère que c'est clair ce que je viens de dire, on est à peu près une trentaine de personnes et on produit, allez, je ne sais plus, 5-6 expos par an, on refond des espaces. En termes de quantité, je ne sais pas, 150 dispositifs par année. On en bosse 250 entre ceux sur lesquels on travaille, qu'on peut 2 titres qu'on maquette, ceux qu'on met dans les espaces, etc., etc. Et on fait partie donc de la direction d'édition et du transmédia. Et pardon, donc je vais me présenter. Donc avant ça, j'ai passé 15-16 ans au Louvre. Où j'ai fait pas mal de choses, mais principalement un projet japonais qui s'appelle Museum Lab. On y reviendra. D'expérimentation de muséographie numérique. C'est là que j'ai chopé le virus du in situ, en fait. Le en ligne, c'est super, le vide, c'est top. Mais travailler sur l'in situ, c'est vraiment quelque chose, en tout cas pour moi, qui est formidable. Et auparavant encore, j'ai démarré au XXe siècle et j'ai eu la chance de démarrer dans le groupe Canal+, donc rien à voir avec le patrimoine à proprement. Mais j'ai démarré en travaillant avec des équipes qui faisaient la communauté du deuxième monde, pour ceux qui connaissent, la première communauté virtuelle en Europe. Et puis tout un tas de projets assez intéressants du groupe Canal et dans le secteur qui s'appelait multimédia déjà à l'époque. Et donc voilà, je te passe la parole.
Et donc moi, je suis Anne Prunion, je suis la directrice des éditions du Transmédia. Donc c'est toute la direction qui s'occupe du numérique à la Cité des sciences et de l'industrie. C'est le numérique à destination de la production dans toutes nos missions de vulgarisation et de valorisation de la culture scientifique. Mais c'est aussi, j'y reviendrai, toutes nos activités de promotion et de décryptage des cultures numériques. Et c'est pour ça que vous êtes invité aujourd'hui au Carrefour numérique, qui est une autre partie de l'activité. Mais effectivement, cette présentation, elle ne se base que sur la muséographie numérique in situ. Moi, avant de rejoindre l'université, j'ai fait quelques années dans des boîtes d'IMO multimédia. J'ai aussi travaillé pendant 10 ans au Science Museum de Londres, voilà. Donc c'est un peu ce mélange de nos expériences habituelles qui cadre cette présentation.
Voilà. Et avec évidemment un travail d'équipe et donc je remercie déjà Didier Demarez et Guillaume Leplin qui sont dans la salle. On va se faire d'autres intervenants après, mais qui font partie du département ICPM. Donc on démarre par d'abord redire un peu de notre point de vue ce que c'est que la médiation numérique in situ. Donc pardon pour cette définition qui ne serait pas protocolaire, mais en gros c'est un support physique qui fait partie d'une chaîne plus globale en général dans une exposition ou des collections permanentes et qui fait le lien entre le visiteur et un savoir scientifique, des collections, un monument. Et donc, ça répond à des objectifs de médiation en fonction des publics qui sont ciblés. Donc, le numérique, je ne vais pas vous faire une définition de ce que c'est. De toute façon, il y a des petits dessins, donc je remercie Coralie au passage. De Van Gogh, c'est des images qui bougent, du son, un mélange de logiciels, de vidéos, de pas mal de choses qui se portent, qui nous entourent, voilà. Et qui s'hybride surtout, et ça, on y reviendra souvent, parce que l'hybridation, c'est C'est un peu la marque de fabrique de la Cité des Sciences et des Industries. Et alors, après, on se dit que... Enfin, le in situ, ça, c'est important parce que le in situ, il y a une dimension évidemment spatiale et une dimension sociétale. Et donc, c'est tout un rapport au corps, à l'espace, à l'ergonomie, au confort, et j'en passe, qui fait que de concevoir des dispositifs in situ, c'est plein de contraintes passionnantes, mais vraiment plein, de hauteur, d'accessibilité, de plein de choses. Et il faut être straight to the point, engager les visiteurs et en même temps être très clair et rigoureux scientifiquement si on a des choses à transmettre scientifiques comme c'est le cas. Voilà. Et je prends mes petites notes, pardon. Et deux autres choses, on en trouve encore. On a parlé, je suis contente, on n'a pas de pont. Tordre le cou à la question de l'innovation. Parce que c'est quand même le numérique pour les musées, c'est quand même la figure de proue d'innovation. Donc, c'est une question qui se pose. Évidemment, on n'est pas archi d'accord avec ça. Parce que l'innovation, elle se place pas forcément dans la techno. Alors, évidemment, il y a des évolutions d'usage, des choses comme ça. Hein. Mais après, il y a des innovations qui peuvent être très intéressantes sans une technologie de pointe et sans technologie, évidemment, tout pour. C'est plutôt des questions de scénario et d'usage. Et c'est là-dessus qu'on va vachement axer avec Anne notre présentation, puisqu'on va être vraiment sur le visiteur, ce qu'il fait, comment on le met en œuvre, quelle est son expérience. Et si on doit caractériser un peu pourquoi le numérique est utilisé dans les expos, on se pose souvent cette question parce que parfois on se dit que ça peut être un peu fourre-tout, c'est un peu facile d'utiliser un film quand on a plein de choses à dire, voilà. Et surtout à l'ère du numérique responsable, c'est double pertinence de l'usage et pertinence aussi pour des questions de sobriété. Donc Anne va développer justement un petit peu toute cette grille et mettre des mots sur comment en fait à quoi sert le numérique. Sur plein de registres différents. Et est-ce qu'on pourrait se demander pourquoi on utilise un dispositif numérique et pas autre chose? Et donc, il y a quelques critères, des critères de visualisation, mais bon, des bonnes photos font l'affaire. Non, mais si, parce que j'allais le dire. Après, il y a quand même quelques éléments forts qui sont spécifiques au numérique autour de la narration, tant pis, j'y vais, et la simulation. Et surtout, après, c'est des questions d'usage et du X. En fait, il y a un plaisir d'usage. Et voilà, il y a quelque chose comme ça de physique avec de numérique qui est multisensoriel et qui est assez mémorable. Donc, j'en viens. Donc, alors, le titre, de la borne aux expériences XR, tout change et rien ne change. Donc, c'est évidemment un peu de provocation pour dire que finalement, il y a des intentions qui sont assez, toujours très, voilà, assez stables et que finalement, des bornes, on en a toujours aujourd'hui et elles sont très, très bien. Enfin, le principe de borne, je déteste ce principe-là en théorie, mais en réalité, il y a encore des bornes, on verra dans la frise, qui sont extrêmement bien, peu importe, ça dépend à un, ça, voilà, c'est un contexte, un besoin, un usage. Donc là, si on peut passer peut-être à la chronologie. Donc c'est une sélection partielle, donc subjective. Donc d'ailleurs, il y a peut-être quelques erreurs parmi toutes ces personnes assez précises. Et donc on soumet à votre sagacité, d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Et on prend une version post-présentation parce que là, il n'y a pas de légende, il manque beaucoup d'informations, donc. Et on a des regrets parce qu'il y a des oublis, des informations qu'on n'a pas eues dans les temps. Et donc, on fera quelque chose de plus complet et précis. J'imagine qu'on partagera les documents d'il y a 6 ans. Fait que. Et donc, on a fait une sélection un petit peu en se disant où est-ce qu'il y a une adéquation fond-forme, est-ce qu'il y a une direction artistique intéressante, est-ce que la narration est assez originale. Il y a des questions aussi de qualité de diffusion du son, de l'image, parce que ça c'est, et puis évidemment quand ça fonctionne, c'est important avec le numérique, de l'originalité d'un concept, évidemment la nouveauté d'une technologie ou de la nouveauté d'un usage forcément. Et aussi des questions d'intégration à la muséographie. Parce que le numérique s'intègre plus ou moins heureusement à la muséographie et on peut voir des évolutions. Si on prend les années 80, on part de la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc c'est 86. J'ai pensé à plein de trucs en même temps, je pensais à Noémie, qui est donc 85 première bonne, ça fait que je suis désolée. Donc là, c'est l'image, la première image, c'est 87. C'est une édition qui s'appelle Expression et comportement. Et je remercie déjà Thierry Jory, qui est une figure de la Cité des sciences et de l'industrie, d'avoir retrouvé cette image qui était introuvable dans nos bases de données. Thierry, donc m'expliquait que dans les années 80, à la Cité des sciences et de l'industrie, donc au moment où on invente un musée interactif, il y a la micro-informatique, mais que la qualité de l'image est assez pauvre. Et donc, finalement, l'audiovisuel est absolument incontournable et pour avoir une qualité d'image qui permet de transmettre les informations que l'on souhaite transmettre. Et donc, on rend des audiovisuels interactifs. Et donc là, c'est la première fiction interactive. Et cette fiction, donc, ça s'appelle Stratégie pour une soirée. Donc, c'est une salariée d'entreprise qui souhaite finir sa journée parce que ça y est fini, mais son patron la retient. Et donc, le visiteur, en répondant à un certain nombre de choses, modifie le scénario et aide la personne à partir, à quitter son travail. Donc, comme c'est expression et comportement, évidemment, l'image est très importante, puisque là, il faut essayer de décrypter un petit peu ce qui se joue entre ces deux personnes. On a choisi de ne pas vous mettre plus d'écran que ça, même si finalement, à l'arrache, là, tout à l'heure, vous en crachotez. Je ne sais pas que je m'impose. Mais au début, il n'y avait que directeur studio, donc la deuxième image, comme je disais, l'hybride, c'est quelque chose de très important, donc le fait de mélanger du tangible, un objet avec du numérique, en entrée ou en sortie. C'est une maquette et on compose aux visiteurs se mettre dans la peau d'un directeur de la photographie. Et l'autre à droite, donc ça c'est une exposition maths que si vous voulez faire un peu de spéléologie et d'archéologie, on ne s'en lasse pas, n'est-ce pas? Les maths, c'est extraordinaire. C'est toujours. D'ailleurs, on se demande si ça ne devrait pas être patrimonialisé, parce qu'il y a quand même des bijoux d'audiovisuel des années 80, fin 80, qui sont presque du cinéma d'auteur, ces travails de vidéaste. C'est assez incroyable et rafraîchissant. Et donc là, en bas, vous avez tout de suite du tangible. Là, c'est interactif, les surfaces sont tactilisées, une question de géométrie. Et pour choisir la réponse, il faut toucher un des modèles géométriques. Et on a faux ou on a tort. C'est très simple, c'est beau, c'est design, c'est assez intemporel. Et voilà. Et en référence en bas, finalement, les références, c'est quoi? C'est surtout les débuts de l'art numérique, enfin, Ars Electronica, l'exposition qui a fait date, les immatériels, les immatériaux, je ne sais plus. Nous avons assez. Mais ça m'est 85 à Bobo. Et donc là, on poursuit dans les années 90, c'est toujours avec l'art numérique. Donc là, finalement, M. Benayoun est pas mal représenté avec Jeffrey Shaw. Donc là, les premières images, donc ça s'appelle Machine à communiquer, pour la présentation de tout à l'heure, 91. Et donc deux exemples. Donc là, la micro-informatique au-dessus, et qu'est-ce que peut en faire un artiste, déjà, en 91, de se balader dans une cité en 3D. Et ça, c'était vraiment un dispositif de la cité. Enfin, on invitait les artistes numériques à venir sur des dispositifs de médiation. Voilà. En parallèle d'autres œuvres d'art numérique, on va revenir dessus. Et donc là, c'est à peu près l'âge d'or du multimédia. Donc c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec les CD-ROM, etc. C'est le moment où là, vraiment, autant avant, dans les années 80, on montait encore sur bande. Il n'y avait pas de fichier numérique de vidéo. Là, c'est bon, on y est. Donc on passe le 4 et donc on utilise Director, Rock Lecoin Truc. Et donc là, j'ai pas la bonne image, mais il y avait donc un. J'aurais bien aimé vous montrer pour une exposition qui s'appelait Mesures et démesures. C'est la deuxième image à la deuxième rangée. Un dispositif comme on pouvait faire, comme on fait toujours d'ailleurs aussi, hein, très soigné, très sophistiqué, qui fait vraiment appel à la concentration des visiteurs et à son esprit d'analyse et d'observation. Donc là, on proposait de se le mettre dans la peau d'un jury de concours athlétique. Et donc d'évaluer des athlètes, donc grâce à une vidéo et tout un programme qui donne les clés et les compréhensions. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout faire parce que je pense que d'ailleurs on va peut-être s'arrêter à la fin des années 2000 et survoler vite fait les années 2010-2020 puisque c'est ça finalement. Tout à l'heure quelqu'un a dit que c'était pas forcément ce qu'il y avait ce que on a le temps. Donc là, vous avez quelque chose qu'on une icône un petit peu, c'est la prise électrique là. de Maurice Benayoun pour l'exposition sur l'électricité. Donc, c'est devine ce qu'il y a derrière la prise. Et donc, l'enfant qui tire la prise arrive jusqu'à des lignes électriques et passe évidemment tous les chemins. Et donc là, du point de vue de ce qu'on cherche sur l'expérience de visite, et tout y est, quoi. Adéquation, fond, forme, le geste. Voilà. Alors, année 2000. Donc là, de notre point de vue, on développe tout la gestuelle. La geste, le corps, le mouvement, on s'émancipe. Alors, il reste plein d'écrans tactiles, évidemment, puis des écrans tactiles, des petits points, des walls, donc le finir, tout ce qu'on veut. Mais néanmoins, on commence à chercher d'autres façons d'interagir. Et donc là, il y a un exemple avec une Kinect. Deuxième exemple, là. Et comment on donne du sens à un geste. C'est-à-dire que, voilà, on interagit, mais comment est-ce que le geste qu'on fait est en adéquation avec le contenu? Donc là, manipuler une terre, et on voyait quelles étaient la terre, notre terre, et on puisait dans différentes régions du monde pour voir quels matériaux les personnes dans ces régions du monde utilisent pour construire un habitat. Donc bon, c'était les premières tentatives un peu d'essai avec de mouvement avec Tatinex. Encore une œuvre d'artiste à côté. Donc là, il s'agit de souffler dans des pissenlits. Donc c'est Edmond Couchot, qui était une œuvre plus ancienne, mais qui a été réutilisée à la Cité des Enfants. Et puis au-dessus, d'autres exemples. Alors, je vais pas tous les citer, mais des exemples pour vous voyez que là, tout en haut, on fait appel au corps, au réflexe. En fait, c'était surtout ça, ce dispositif. Là, comment numérique permet de s'interfacer avec la réalité. Donc là, on s'interface avec un robot. Donc, c'est l'hybridation inversée, parce que nous, souvent, on pense augmenter l'objet avec du numérique. Mais là, bon, c'est un peu là où on l'augmente pas, on communique. Et il faut créer quelque chose. On peut passer les autres exemples. Indépendamment de corps et mouvement, enfin, il y a toujours à la cité, depuis toujours, tout ce qui touche aux simulations. Donc là, c'était Objectif Terre, le fait de piloter un satellite. Et en dessous, bah là, les premières tables tactiles et tout ce que ça nous invitait à faire en se disant c'est super, c'est convivial, les gens se posent tous ensemble, font des choses ensemble. C'est un peu le Graal, souvent le collectif, c'est quand même ce qui est recherché, enfin. En tout cas, on souhaiterait faire beaucoup de dispositifs collectifs, indépendamment évidemment des films et des univers, et puis avec une collectivité, soit que les gens qui sont ensemble puissent faire des choses ensemble, ou encore, peut-être mieux, des visiteurs qui ne se connaissent pas puissent être amenés à faire des choses ensemble. Donc, un exemple de réalité augmentée à droite, science et fiction. Donc, l'enfant qui manipule la grosse tablette, là, de gros écran. Il y a l'écran autour, il voit des extraterrestres dans l'air, en fait, qui occupent l'espace d'exposition sans que personne ne le sache. Voilà, l'image est très bonne, on voit quoi bien. Et en dessous, des moments clés pour nous, de Kébroli, qui était très attendu en 2006. Donc là, c'est. Et ensuite, pour ma part, Museum Labs, sur le projet sur lequel j'ai travaillé, où on a testé beaucoup, beaucoup de choses au Japon, avec des œuvres du jour. Et là, on a travaillé beaucoup l'interaction et le geste. Donc, manipuler les 3D pour regarder avec les mains, en pénétrer dans un tableau, faut comprendre corporellement une œuvre, on la regarde plus de la même façon après, même on n'a pas besoin d'explication, ça suffit. Nous, on voit d'autres dispositifs qui permettent de prendre plus de recul, comme l'eye tracking. On regarde un objet et on fait prendre connaissance aux visiteurs la manière dont ils regardent un objet. Donc, en fait, c'est un mot-clé, entraînez-moi, réflexif. Il y en a plusieurs comme ça, mais les obsessions. Dispositifs réflexifs qui permettent de prendre la hauteur et de digérer en fait la quantité d'informations. On parlait top-down, là, top, enfin, Noémie disait, je ne sais plus comment, descendant. Et voilà, un truc où, hop là, on fait pas de côté, distance. Cité de l'architecture et du patrimoine aussi, qui était super important. Enfin, c'est affreux parce qu'il y a des établissements, il faudrait les citer et on ne pourra pas tout citer, mais voilà, chasse et pêche. Ça, c'était vraiment nous et la chasse et la pêche. Plein de surprises, plein d'humour. Et d'autres dispositifs, je vais peut-être pas. D'ailleurs, je pourrais demander, lui, il faut que peut-être un jeu pour essayer de reconnaître. Appelé dans les années 2010. Là, il y en a beaucoup plus. Et 2010, on a intitulé ça expérience et storytelling. C'est vrai que là, le fait de storyteller plus nous paraît évident dans ces années-là. Là, on est vraiment dans la mise en récit. Enfin, tout ça a toujours existé, hein. Mais disons que là, l'accent est mis vraiment sur une mise en récit. Du propos, donc là comme ça c'est pas hyper lisible, C'est le... Donc, réalité augmentée, mais j'ai pas les mêmes années. Donc, voilà. Moi, j'ai 2010 in situ, c'est une autre.
Vu que
Donc, ça me trouble.
les renouveler.
Voilà. Mais donc, par rapport au storytelling, bah non, je vais en venir après. Plutôt, là, on parle vraiment d'expérience, de visite, là. Ce mot existait déjà auparavant, mais là, plus que jamais. Je sais pas depuis quand, d'ailleurs, on parle d'expérience de visite, en vrai. Mais là, on parle d'expérience de visite. Et donc, pour renforcer l'expérience, la troisième image, là, ici. C'est donc Léonard de Vinci et le concepteur Yacine Slany a eu énormément de mal à faire par des designers une manivelle qui permettait en fait de bouger une chronologie pour avancer ou reculer dans le temps. Et des designers disaient mais pourquoi faire écran tactile ou alors un béton, enfin bon bref tout, mais une manivelle c'est quand même voilà c'est un objet complexe. Par exemple, le visiteur qui les tourne, ça se casse parce que tout problème du numérique in situ c'est aussi la robustesse, donc parfois ça bride un peu ta créativité. Mais voilà, donc ça c'était donc c'est pour donner du sens au geste, encore une fois, engager le visiteur. Et au-dessus, quelque chose d'assez génial en haut, on se rend pas bien compte, mais à un moment dans un couloir, le visiteur voit des codex qui bougent, enfin une projection ou un écran qui montre les codex de Léonard de Vinci animés, pour se rendre compte qu'en fait, il a été capté, son image a été captée, mise dans le codex. Mais avec une texture façon codex, donc il discerne que c'est lui, voilà. Et pour montrer comment fonctionnaient les machines, donc le visiteur se retrouve dans la catapulte et est catapulté. Voilà. Ce genre de choses. Et là, jeu vidéo, c'est un peu le même esprit. Donc c'est. Anne donnera les mots-clés de ce genre d'expérience tout à l'heure sur ce que ça, la manière dont ça engage les visiteurs. Encore de la réalité augmentée, c'est aussi l'époque de la datavis, donc beaucoup de choses ont été faites en data visualisation. Donc là, il y avait un exemple dans le jeu vidéo et un peu plus à droite, l'image n'est pas très bonne non plus ici. C'est oui, donc ça c'est la réalité augmentée et ici donc c'est une projection hémisphérique avec de la data visualisation. Ça avait reçu un prix. Donc on augmente beaucoup la réalité dans ces années-là, même le vivant avec l'image de droite. Avec des fourmis qui ont des puces RFID, ce qui permet de se mettre dans la peau d'un scientifique et puis faire une petite étude sur le comportement des fourmis. Et ensuite, Anne, je ne vois plus rien, je ne sais plus rien. Je vais te passer la parole pour le Science Museum.
C'est long, hein, c'est long les ailes.
Alors voilà, on va aller faire court et après je vais passer la parole parce qu'Anne va pouvoir développer quelque chose de super au Science Museum. Mais donc c'est des années aussi donc dans le mix de la réalité non, je vais citer d'autres exemples donc comme Guillaume est là je cite Fontevraud et en plus c'est pas un grand musée etc donc c'est très bien ici que il y a l'inauguration voilà. Donc le visiteur pour comprendre la polychromie propose lui-même une polychromie qui est directement projetée dans l'abbaye pardon excuse-moi Et donc ça, c'est ça ira pour l'instant. Je te passe la parole, je prendrai. C'est justement dans le mix de la réalité, c'est très bien.
Je fais juste une petite, du coup, incursion pour vous parler des trois dispositifs qui sont là, puisque en début des années 2010 au Science Museum, on est en train de faire un virage. On s'aperçoit toute la muséographie enfant, les expositions temporaires, on est plein. Il faut savoir qu'en plus les musées en Angleterre, ils sont gratuits. Les seuls gens qui viennent pas, c'est les gens qui vont au V&A en face et qu'on voudrait savoir comment on fait venir chez nous. Et donc de réinvestir toute la partie musée historique et pouvoir comprendre nos collections. Mais c'est vrai que la problématique des objets scientifiques, c'est que des fois, ils sont un peu compliqués à comprendre et à décrypter. Et donc, on fait un vrai travail régulier pendant 5 ans continu, itératif de réflexion sur l'interprétation des objets. Donc, on est ressorti avec trois grandes familles de dispositifs qui permettent d'interpréter les objets. Le premier, je viens, tu restes. Donc, on a inventé des vitrines interactives. C'est des vraies vitrines dans lesquelles il y a des objets. Et donc, on se sert de l'écran transparent pour pouvoir imposer un niveau de storytelling. Mais avec la volonté, bien évidemment, que régulièrement le storytelling s'en aille et puis revienne. Parce qu'il faut faire cette bascule entre l'artefact, l'objet dans sa condition de présentation dans un musée, le fait qu'on honore son importance scientifique et le moment où on fait revenir l'histoire par-dessus. Il y avait aussi tout un enjeu de faire que les objets techniques, en général, ils marchent pas dans les musées. Alors, on peut bien sûr montrer des animations, mais il y avait un ensemble d'objets sur lesquels... Alors là, on le voit pas, on peut juste la bonne image.
Ah, mais...
mais l'artefact réel est juste à côté. Et du coup, on a recréé des modèles en coriant, assez jolis, avec une interaction qui est extrêmement simple. Bon, il y a un petit curseur qui a développé. Et derrière, on voit en temps réel l'impact que ça a sur le courant électrique et qui est à la base des conditions de, des conditions de communication. Donc, on l'a fait sur le téléphone, on l'a fait sur le câble, on l'a fait là sur la radio, etc. Et donc, et un dernier qui était plutôt un dispositif très storytelling où on est au début potentiellement d'une logique d'inclure de l'immersion au sein d'une exposition.
Et tu veux pas peur? Ouais, bon.
Oui, avec beaucoup d'humour des fois, puisque là, on a effectivement un petit théâtre animé dans l'histoire dédiée au comment on dit en français, Télégramme, au Télégramme, sans merci, je kiffe.
Donc après, il y a un développement des surfaces de diffusion des images avec le mapping. Donc là, vous avez, sur l'Expo Pasteur, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites en termes de diffusion. Si tu peux juste un peu descendre l'image. Donc, là, il y a le mouton qui est là. Elle était Guillaume, de Fleur de Papier, qui le citait. C'est le dispositif qui t'avait marqué. Donc là, par des maladies, il me semble, transmises par le mouton, et on fait directement sur un facsimilé mouton.
Il y avait la nature en l'air.
En laine. Donc, double... Il y a quelque chose qui se joue d'aptique, certainement dans le cerveau, qui fait que c'est prégnant. Ensuite, donc le bus, si tu peux monter plus tôt, s'il te plaît. Voilà. Et donc, des théâtres optiques, en haut, plus haut.
Yeah, par exemple.
Voilà. Des théâtres optiques, ou encore plus haut, des écrans transparents. Un peu dans ce que faisait Anne, voilà, vous montrer un propos scientifique sur un aquarium directement. Autre chose, donc par rapport au storytelling, il y a une expo qui était, ça se joue aussi dans l'intégration, donc dans la mise en scène. Donc la scénographie est primordiale, évidemment, puisque c'est une exposition. Donc dans l'esprit très réussi du storytelling qui se fait même avant le film, puisque de toute façon, quand on parle d'expérience, c'est expérience globale. Donc c'est évidemment pas que le contenu, c'est tout l'espace avec donc le sujet qui est traité. Et donc là, il y a deux exemples de l'exposition Froid. Donc là, vous voyez une femme cryogénisée en 2030. Bon, je ne sais plus quelle est la date. En fait, le visiteur ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dedans. Il appuie sur le bouton, puis là, hop, une femme apparaît. Et elle vient du futur et elle explique. Donc, elle a été cryogénisée, etc. etc. Et c'est plutôt assez surprenant, drôle, sympathique. Ça rend familier les sujets. Et le deuxième autre exemple, c'est visiteur passe dans une pièce à 5 degrés et un homme se déshabille à échelle 1 et explique. Et puis on voit en temps réel ce qui se passe sur le port avec des animations d'une personne qui reste nue dans une pièce à 5 degrés. Et donc après, je passe vite. On travaille toujours, la Cité des Sciences travaille toujours donc autour des objets hybrides, mobiles. Et à développer effectivement tout ce qui est mapping, projection. Et on arrive dans les années 2020 qu'on intitule pour l'instant, parce qu'il n'y a pas tellement de recul non plus, spectacularisation. Moi, je préfère plutôt immersion. Après, c'est des débats, hein, chacun. Interface naturelle et sobriété. Donc, il y a une forme. Ça, depuis toujours, on a un rapport aux écrans assez contradictoire. En fait, on les déteste. Et en même temps, on ne peut pas s'en passer. Mais tout le monde a dans les équipes, hein. Personne ne veut d'écran, hein. Il faut que ça soit l'information soit sur une surface, alors elle est par terre, sur de la terre, il faut que l'interaction se fasse avec un objet tangible. C'est intuitif, mais je pense que c'est vrai que c'est un rapport aussi des usagers qui en ont ras-le-bol de leur téléphone portable, et puis on voit bien que il y a quelque chose de lisse dans un écran. Donc dans certains cas c'est très très bien, dans d'autres cas effectivement c'est plus intéressant de donner un peu de relief, un peu des choses un peu plus saillantes. Et donc, dans des choses très réussies, il y en a plein. Mais on va en revenir tout à l'heure, donc je ne le cite pas.
C'est le geste.
Il y a le geste dans la catégorie de s'exercer à quelque chose, dans l'idée ici, à la cité très forte, de simuler, d'apprendre des choses, d'apprendre des gestes justes, puisqu'on est dans un musée de sciences. Là, il s'agissait de cuisine. Et il s'agissait monter une crème fouettée virtuellement, mais avec les ustensiles. Et la crème qui se monte virtuellement à l'écran, là, il y a un petit tutoriel au départ. Et ensuite, on voit si le geste est bon, on est noté, vous avez réussi à monter la crème, vous n'avez pas réussi à monter la crème. Là, on était hyper contents parce qu'il y avait vraiment quelque chose de très exigeant et très rigoureux, même peut-être un peu trop. Ça rendait finalement le geste assez difficile. Là, il y a un exemple avec du son, parce que le son, donc cette espèce de fatigue conduit à, donc, comme vous le savez, à privilégier beaucoup des dispositifs sonores. Et donc sont spécialisés, ce genre de choses. Donc effectivement, voilà, on a quelques exemples. Après, on continue toujours à travailler sur des dispositifs collectifs. Donc là, il y en a tout un paquet. Le premier, en haut, là, c'est une exposition sur les foules. Donc c'était une espèce de karaoké pour expliquer comment une foule se chante juste. Et là, pour le coup, c'est super parce que des visiteurs qui ne se connaissaient pas pouvaient vraiment tester ensemble faire cette expérience-là. Là, en dessous, c'est... pardon, c'était précis, c'est un peu trop... un dispositif à gauche. Là, c'était un faux interactif. Donc là, c'est un film qui est, en fait, on suit des pas dans la foule, le métro, etc. Et donc, c'était plutôt intéressant, mais j'ai bientôt fini. Et voilà. Danser, qui est en cours en ce moment, et Chauvet, vous allez voir tout à l'heure. Et donc, c'est bien de finir sur Chauvet, parce que Chauvet, justement, on parlait de sobriété, donc le numérique responsable, mais aussi donc tout ce qui est fatigue cognitive. Et il y a des parties pris fort. La commissaire de l'exposition a été hyper intéressante, très engagée. Et donc, il n'y a pas d'image qui bouge, comme on dit ici, dans cette exposition. Et pourtant, on développe un propos en théorie, on aurait dû prendre des images qui bougent. On ne l'a pas fait. On a mis une image fixe du son. Vous expérimenterez tout à l'heure et puis vous verrez ce que vous en pensez. Mais ça fait partie, en tout cas, de ce sur quoi nous travaillons. Et je te passe la main, Anne. Voilà, j'ai pas cité. Merci, j'ai besoin de scroller d'abord. Je vais faire. Et en bas, il y a quelques éléments clés.
Donc oui, donc la question, c'est quelle suite? Et puis comment progresser dans nos pratiques? Parce que quand on regarde notre histoire de nos pratiques professionnelles à la Cité des sciences et de l'industrie, on fait quand même des choses exceptionnelles depuis longtemps. On a bien vu, on avait déjà mis des caves, on avait déjà mis des objets immersifs, on avait déjà mis de la réalité augmentée. Et on a comme ça toujours l'impression de se réinventer. Et puis, c'est surtout de le faire malgré une évolution, une accélération de l'évolution des techniques et des usages. Ça va de plus en plus vite. À chaque fois, il y a un nouveau truc qui sort. On n'a pas entièrement pris le temps de l'appréhender et de savoir quoi en faire. Il y a quand même, il faut qu'on se le dise, une compression des calendriers de production, en tout cas en ce qui nous concerne. Parce que il y a une injonction à occuper le terrain, à sortir des choses dans beaucoup de temps. Comme le disait Stéphanie, on fait 7 à 8 expositions par an ici, c'est énorme. Et puis il y a la professionnalisation aussi de nos activités qui font que quelque chose qu'on arrivait à faire un peu en mode débrouille il y a 10 ans, maintenant c'est la commande publique, les cahiers des charges, des réglementations. Qui font que finalement, le temps qui est resté à la conception et au travail intellectuel de conception, il est de plus en plus réduit. Il y a, comme on l'a dit, une injonction à l'innovation, avec potentiellement une façon un peu biaisée de le comprendre ce terme, parce que qu'est-ce que c'est que l'innovation? Est-ce que c'est juste sortir le dernier gadget à la mode ou vraiment réfléchir sur une façon différente de se réapproprier ou de creuser des enjeux? Et puis finalement une rotation fréquente de la gouvernance, parce que nous, dans nos métiers, au quotidien, il faut quand même qu'on arrive à convaincre, à embarquer les gens avec lesquels qui nous encadrent pour pouvoir réussir à développer des choses qu'on estime faire avancer nos métiers, parce qu'ils n'ont pas spécialement le recul que nous avons sur nos pratiques. Ce qu'on essaye de faire avec Stéphanie, c'est d'être en capacité un peu de se nourrir de notre histoire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, faut pas mettre ça, ça fait pensif. Oui, ça fait pensif, parce que se nourrir de notre histoire, ça suffit pas de le dire. En fait, ce qu'il faut, c'est potentiellement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer un vocabulaire critique pour qu'on puisse se nourrir de cette histoire et de manière commune, tous ensemble. C'est quoi les termes, les mots qu'on va pouvoir utiliser pour que finalement, quand on arrive à regarder le corpus des choses qu'on a déjà développées, que ça soit les nôtres ou finalement que ça soit celles des autres, on soit en capacité de pouvoir mettre des mots et de pouvoir articuler des envies d'innovation, de développement, de progrès, quel que soit le terme qu'on emploie. Alors,
Attends, je finis ta thème. Notre objectif, on va vous présenter des outils qu'on utilise, voilà, autour des objectifs de médiation, autour de la nature de l'expérience, autour des ressources d'engagement. C'est les nôtres, mais voilà, ça pourrait en être d'autres, mais ça nous permet déjà, nous, de pouvoir commencer avant. Alors, médiation. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Et surtout, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'en pense le public? Et là, je n'insisterai jamais assez sur l'importance des évaluations préalables. Il y a quand même une différence entre faire dire quelque chose parce qu'on en a envie, on est expert dans le sujet, et le dire pour quelqu'un, à l'adresse de quelqu'un, avec la compréhension de son point de départ. Et la médiation, c'est ce travail qu'on fait entre de là où part le visiteur et là où on a envie de l'amener. Et vraiment, ça marche parce qu'il faut qu'il y ait une compréhension un peu du public, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours comment ça passe. Et puis, du coup, quand on réfléchit à cette transformation attendue, c'est le chemin qu'on va faire pour amener les visiteurs d'un côté à l'autre, réussir à penser à des objectifs qui dépassent la question de la cognition et la question des savoirs. Et pour ça, j'utilise un outil, encore une fois, il y en a d'autres, qui s'appelle Generic Learning Outcome, qui est utilisé par les bibliothèques en Angleterre et qui pense l'apprentissage en 5 grands ensembles. Alors, bien évidemment, Knowledge and Understanding, c'est-à-dire les faits, la connaissance, la capacité à apprendre de nouveaux savoirs, mais aussi les compétences. J'ai appris à faire quelque chose. Je ne savais pas décrypter une image et maintenant j'ai appris à la décrypter. Je peux apprendre à faire une recherche archéologique, je peux apprendre à peindre sur une céramique, que sais-je encore. Mais aussi quelque chose qui va travailler sur les attitudes et les valeurs. C'est quelque chose qui va venir renforcer un positionnement que j'ai, une conviction, qui va me donner envie ou pas envie de m'engager, qui va me permettre de faire des liens et qui va me permettre de pouvoir potentiellement mieux comprendre la pertinence de ce propos par rapport à ma vie à moi. Bien évidemment, l'inspiration, la créativité. Faut pas se dire que prendre du plaisir, avoir envie de faire soi-même, avoir envie de créer, c'est pas une forme d'apprentissage. C'est quelque chose qui, cette capacité de transmettre, surtout dans certains de nos musées, on a pour objectif de fédérer des vocations. Si on n'est pas capable de transmettre l'appétence, on n'y arrivera pas. Et le dernier, là, c'est très méta ou très infra. C'est la capacité à se situer soi-même par rapport à ce qu'on se présente. C'est ce moment où on va justement, comme j'en parlais avec les vitrines sur lesquelles on voit, puis on voit pas les choses. Cette capacité à faire ce va-et-vient entre le savoir ou les informations qu'on nous donne et sa propre perception. C'est comment je me situe par rapport à un sujet. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas. Et surtout, c'est cette capacité là où ça nous intéresse particulièrement. Cette capacité à pouvoir dire à des visiteurs qui sont légitimes d'avoir un point de vue sur les propos qu'on leur présente. Et par exemple, chez nous, dans les musées de culture scientifique, c'est vraiment un de nos enjeux. C'est-à-dire, il y a même jusqu'à ce problème de légitimité de nos visiteurs qui se disent que la science, elle les concerne pas. Ce n'est pas de leur intérêt. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose d'important. La nature de l'expérience, ça pèse aussi par quels sont les contenus. Pour pouvoir faire un dispositif, on a quand même des sources documentaires, des collections, des archives, des données, des témoignages. Des fois, c'est des corpus à développer. On va faire de la science participative ou ce genre de choses. C'est assez important parce que, je vais vous donner un exemple, si on veut raconter l'histoire de la création du web, on va pas la raconter pareil si on a le protocole TCP/IP, un schéma qui explique comment on navigue de page en page, ou le témoignage de Tim Berners-Lee. C'est pas la même chose. Et donc, déjà, se poser la question de ce qu'on a à notre main, c'est ce qui va nous permettre de n'imaginer quelle est la nature de l'expérience qu'on voudrait avoir avec. Et bien évidemment, ça veut dire des fois, il y a des images ou des sources qu'on n'a pas, on peut aussi les faire, on peut aussi les produire. On peut engager une campagne de numérisation, on peut faire tout ce genre de choses, mais on n'a pas toujours cette occasion. Et en fait, c'est pas des séquences, hein, c'est pas l'un puis l'autre après. C'est-à-dire que des fois, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas le bon contenu pour dire ce qu'on a envie de dire, ça nous engage à devoir revoir notre propos et à revoir nos objectifs de médiation. Et donc, une fois qu'on sait grosso modo quelles sont les données et les matériaux qu'on va avoir à notre main, on peut commencer à imaginer quelles sont les modalités d'accès qu'on va mettre en place pour pouvoir naviguer, découvrir, profiter de ce contenu. Et après, le tout, c'est comment on fait tout ça. C'est-à-dire qu'une fois, comment on donne envie, comment on crée la BEPANF. Alors, on le disait avec Stéphanie, ce qui est important pour nous, c'est le fait qu'on fait vraiment de la muséographie in situ et qu'il y a des ressorts qui sont hyper importants, qui ont à voir avec la façon dont on mobilise tout ce qui est contexte externe, c'est-à-dire comment on engage les sens, comment on rend les choses tangibles, comment on engage le corps. On fait beaucoup de choses sur lesquelles on se déplace, dans lesquelles on a une capacité d'aller vers, etc. Bien évidemment, le rapport à l'espace, et puis aussi le rapport aux autres, la dimension sociale. Clairement, on peut, si c'est pertinent et important pour nos dispositifs, pour nos contenus, comment on fait qu'on arrive à travailler ensemble. Et puis, quel ressort plus personnel? Alors, il y a toutes les questions de rendre les choses accessibles et traduction. Et là, je ne parle pas uniquement en termes d'accessibilité PMR, hein, je parle de l'accessibilité pour que, effectivement, ça parle, ça devienne familier. Des questions d'ergonomie, des questions de personnalisation, si on a l'impression que ça nous parle plutôt que au coût à chacun. Je parle aussi de questions de défis, de jeux de rôle, de vertige, qui sont des termes qui sont utilisés de la théorie des jeux de Roger Caillois, qui sont des concepts d'engagement qui sont aussi relativement intéressants. Des questions aussi esthétiques, il y a des choses qu'on fait parce que c'est beau, tout simplement, ou qui viennent de l'ordre de l'intime. Alors bien évidemment, la liste, elle pourrait être beaucoup plus longue que ça, mais c'est déjà des mots qui permettent de poser la réflexion. Et tout ça, ça nous a permis de voir, en re-regardant cette grande frise, que quand même, on avait un espèce de petit best-of, on avait des postures qui étaient un peu signatures d'univers science. Alors, être tentatif, engagé, émerveillé, ça, c'est un peu le tout à chacun. Ça, c'est le lot de tout concepteur numérique. Mais après, il y a se mettre dans la peau de s'exercer au bon geste, expérimenter, créer, percevoir, imperceptible. Alors, la notion d'astrospective, c'est moche. Hein. Oh, au vert, mais c'est ce qu'on se dit, c'est ce côté un peu réflexif, contribuer, dialoguer.
Parce qu'on tient un verbe d'action. Oui.
Parce que tiens.
Non, mais du point de vue du visiteur, c'est une obsession.
Et puis, bien évidemment, derrière, la pertinence, parce que ces choix-là, ils se font, bien évidemment, dans un contexte technologique, dans un contexte d'usage, être capable de voir si, à chaque fois, on utilise l'outil, alors, soit qui est le dernier à la mode, ou celui que les visiteurs utilisent le mieux. Est-ce que, finalement, le temps, on a bien parlé de crédit d'attention, quand on parle de l'expérience de nos visiteurs. Est-ce que le crédit d'attention, il doit être dépensé à comprendre le dispositif, ou est-ce que le crédit d'attention, il doit être dépensé à comprendre ce qu'on leur raconte? Et c'est toute cette nuance-là sur laquelle il est important de se dire que des fois, l'innovation, elle n'est pas sur aller chercher la nouvelle technologie. L'innovation, elle est sur savoir pour faire en sorte que cette technologie, elle soit la plus agréable et la plus fluide possible pour nos visiteurs. Et puis, bien évidemment, quels impacts? Je l'ai dit, évaluation initiale, mais bien évidemment, évaluation sommative. Et des fois, on n'a pas toujours l'occasion de les faire, même si c'est dommage, parce que en s'adressant à des chercheurs, on imagine à quel point ça serait utile qu'il y ait plus d'évaluation. Et ne serait-ce que penser les évaluations, finalement, c'est penser les impacts, même qu'on n'a pas l'occasion de les réaliser, c'est déjà un pas vers une façon d'affiner sa conception.
Il nous reste 20 minutes. Ah non, on fait
10 minutes, 10 minutes.
10 minutes.
On fait vraiment ça?
Ben ça, on fait, on fera cette après-midi, si tu peux.
Ouais. En fait, au début, on s'était dit qu'on allait faire un test avec vous, mais on peut le garder pour cet après-midi, ouais. De tester le vocabulaire sur 2-3 expériences. Voilà. Donc, une fois que nous sommes riches de tout ça, ben, bien évidemment, c'est comment on fait pour que les outils qu'on met en place, ils servent les pratiques de conception au quotidien. Déjà, pour que finalement, l'apprentissage préalable, il s'insère dans l'apprentissage, dans les pratiques quotidiennes. Donc bien évidemment, si on s'est dit qu'un vocabulaire critique, c'est essayer de l'utiliser, de le mobiliser le plus possible au moment où on conçoit. C'est potentiellement aussi développer des outils qui permettent de pouvoir penser les dispositifs de manière singulière, mais aussi dans le cadre du parcours de l'exposition. Est-ce que quand j'ai décidé que je voulais avoir des choses qui étaient, quels que soient les critères que vous utilisez, hein, avec ces prépondérances-là ou ces tendances-là, est-ce que finalement, quand je mets tous mes dispositifs ou toute mon expérience de visite d'une exposition, est-ce que je suis dans un sens ou est-ce que je suis dans l'autre? Est-ce que je suis pas en train de créer une expérience qui soit distordue? Et quand vous avez envie, quand vous écrivez dans votre propos d'exposition, vous avez envie de quelque chose qui soit fun et ludique, et puis qu'au finalement, faut regarder que l'intégralité des dispositifs que vous avez conçus, il n'y en a pas un seul qui est fun et ludique. Ça arrive moins souvent à la Cité des sciences et de l'industrie, mais j'ai d'autres expériences. Ça permet de pouvoir réinterroger, finalement, est-ce qu'on ne repondère pas les conceptions de manière individuelle? Pareil, les visiteurs de journée, des IDMR, tous ces outils-là qui permettent de se dire, OK, maintenant qu'on a des mots et qu'on peut décrire les choses, comment on s'en sert pour pouvoir travailler? Mais aussi se dire que il y a peut-être, comme je disais, les temps de conception, les temps de réflexion, ils sont un peu compliqués à mettre en œuvre. Et c'est comment on arrive à se remettre dans une stratégie pluriannuelle où on embarque, nous, en l'occurrence, notre gouvernance, pour se dire on va arrêter de butiner dans tous les sens et on va peut-être mettre nos efforts de conception et de réflexion sur des axes resserrés et se servir de cette capacité à concevoir de manière structurée, faire des évaluations, s'en nourrir et recommencer de manière itérative. Et donc là, on s'est quand même posé la question de savoir quelles étaient les marques de fabrique de notre établissement. Et on est ressorti avec quatre axes thématiques. Alors le premier, enchanté, parce que c'était un peu compliqué, dans le climat actuel, de complètement ignorer le besoin de suivre la tendance à ces grandes expositions, spectacles, etc. Mais trois autres termes qui sont plus importants pour nous, qui est d'abord le dialogue. On tient énormément à ce que l'univers science soit et reste des sites de dialogue et des sites sociaux, des endroits où on peut venir, où les visiteurs peuvent s'approprier le débat scientifique. Expérimenter, parce qu'effectivement, la démarche scientifique, c'est une démarche qui inclut l'observation, qui inclut les hypothèses, et choses comme ça. Et c'est des choses qu'on a envie que les visiteurs puissent appréhender pour eux-mêmes. Et puis, bien évidemment, décrypter le monde. Il y a de la science et de l'industrie aujourd'hui partout autour de nous et on la voit pas. Et c'est comment on peut donner un regard sur ces choses qui nous accompagnent. Et donc, ça permet de pouvoir, derrière, essayer de venir se dire, OK, par rapport à ça, quels sont potentiellement les axes d'innovation technique, mais aussi, du coup, les postures, hein, sur lesquelles on va travailler en se disant qu'on exclut les autres. On va donc, du coup, particulièrement travailler les systèmes contributifs et participatifs et sur expérimenter. On va particulièrement travailler les jeux sérieux, les interfaces tangibles, sur décrypter. On va, par exemple, travailler la réalité augmentée ou toute forme d'augmentation, d'ailleurs, de toute façon, qui puisse être intéressante, qui puisse être le son plus sobre comme le son. Et de pouvoir, comme ça, essayer d'embarquer et de se dire, en fait, il faut creuser un sillon, il va falloir y aller de manière beaucoup plus profonde et pérenne si on veut pouvoir dépasser cette logique où, enfin, ça fait 40 ans qu'on excelle, mais potentiellement, si on veut pouvoir dépasser ce cercle et prendre une dimension supérieure, il faudra, voilà, penser sur le temps réel. Et j'en ai fini.
Mais on remercie.
Ah oui, pardon. Donc on remercie bien évidemment toute l'équipe qui a travaillé à la muséographie numérique. On remercie Guillaume, Stéphane, Thierry, Jory, et puis les homologues qui nous ont aidés à contribuer à cette grande fête, bien évidemment, pour tous.
C'est tout.
Merci beaucoup pour cette présentation inspirante, mon César.